Chapitre 5. Buddy Lee consulta sa montre. 7h55. Un panonceau indiquait que l'entreprise Randolph Paysage ouvrait à 8h30 du lundi au samedi. Ike serait là d'un moment à l'autre. La climatisation dans le pick-up de Buddy Lee était tout aussi inefficace que celle qui équipait son mobilhome, et l'air qui s'échappait des évents était tiède. Il aurait fallu faire une vidange du circuit de Fréon, mais il y avait la facture d'électricité à régler avant la fin de la semaine, et à choisir, il préférait avoir chaud au volant que se faire couper le jus chez lui et se retrouver sans frigo. Il tourna la molette de l'autoradio. Déçu de constater une fois de plus que tous les vrais bons chanteurs de country semblaient avoir été remplacés par des bellâtres mollassons qui se contentaient de narrer leurs exploits sexuels en grattant leur guitare folk. Un camion chargé de troncs d'arbres passa à vive allure devant la station-service où il était garé, juste en face du vaste entrepôt en tôle qui hébergeait l'entreprise de jardinage d'Ike Randolph et à quelques dizaines de mètres du seul fleuriste de Red Hill. Buddy Lee, lui, habitait le comté de Sharon, à environ 25 kilomètres de là. Il songea qu'il était curieux que son fils et celui d'Ike ne se soient rencontrés qu'à l'université, alors qu'ils avaient grandi à 20 minutes l'un de l'autre. Il faut croire que la route qui nous mène à notre destin réserve bien des surprises. Buddy Lee s'apprêtait à retourner dans la boutique de la station-service pour prendre un deuxième café à la machine, quand il vit un énorme pick-up blanc à roues jumelées s'arrêter de l'autre côté de la route. Ike en descendit, ouvrit le portail grillagé et se gara sur le parking de l'entrepôt avant de disparaître à l'intérieur de la bâtisse. Alors qu'il était sur le point de quitter le tas de ferraille qui lui servait de moyen de locomotion, Buddy Lee sentit monter en lui une quinte de toux dévastatrice. De fait, quelques secondes plus tard, il avait l'impression qu'on cherchait à lui arracher l'œsophage et que ses poumons avaient fait la grève de l'oxygène. À force de serrer le volant, ses phalanges avaient viré au blanc. Enfin, au bout d'une longue minute, la crise s'estompa. Il cracha une glaire épaisse et traversa la route en trottinant. L'intérieur de l'entrepôt était spartiate. À droite de l'entrée trônait une antique table basse qu'encadrait une chaise pliante en métal et un petit canapé élimé. Contre le mur de gauche, un distributeur de boissons vintage équipé d'une vitre en verre, à l'intérieur duquel deux canettes bleues flanquées de l'inscription « Cola » se battaient en duel. Et, un peu partout, d'immenses affiches publicitaires vantant les capacités de tel ou tel produit à faire pousser l'herbe ou à la tuer, ou à exterminer dans d'atroces souffrances tous les insectes de votre jardin. Un gros trousseau de clés à la main, Ike se tenait devant une porte percée dans le mur du fond, à côté d'une grande vitre en verre sécurite. « Salut, Ike !» dit Buddy Lee. Et l'autre rempocha les clés. « Salut. Buddy Lee, c'est ça ?» Ce dernier acquiesça.
« Vous auriez une minute ?» demanda-t-il. « Je voudrais vous parler d'un truc. »
« Une minute, oui, mais pas beaucoup plus. Faut que j'appelle mes gars pour leur annoncer où je les envoie aujourd'hui. » Ike sortit à nouveau les clés de sa poche et déverrouilla la porte. Buddy Lee le suivit dans une immense réserve où étaient entassées des dizaines de palettes d'engrais, d'herbicides et de pesticides. Au fond, un volet roulant donnait sur un quai de chargement. Contre la grande vitre, on trouvait un petit bureau en métal avec un ordinateur portable et un Rolodex. Juste derrière, un poste de travail cloisonné dans lequel Ike pénétra pour s'asseoir derrière un second bureau métallique. Buddy Lee prit place sur une chaise en bois. Ce box était aussi austère que le reste de l'entrepôt. Un ordinateur, un pot à stylo, deux bannettes pour le courrier et un meuble classeur posé au pied du fauteuil de bureau. Rien d'autre.
Vous avez jamais pensé à investir dans un de ces machins, je sais pas comment ça s'appelle, mais le truc avec les petites boules métalliques qui se tapent les unes contre les autres et qu'on dira un peu de la magie?
Plaisanta Buddy Lee. Non. Buddy Lee se gratta le menton. L'odeur de transpiration et de whisky premier prix flottait autour de lui comme un nuage.
« Ça fait 2 mois aujourd'hui, »
dit-il, et Ike croisa les bras devant son torse musclé.
« Ouais, je sais. »«
Vous tenez le coup depuis l'enterrement ?»«
Bof,
répondit Ike avec un haussement d'épaules. On fait aller.
Des nouvelles des flics ?
Ils m'ont appelé une fois. Depuis, rien.
Moi aussi, ils m'ont appelé. Apparemment, ils n'avaient pas vraiment de piste.
J'imagine qu'ils mènent l'enquête. Buddy Lee s'essuya les mains sur son jean.
Avec l'âge, je suis devenu assez casanier. Je vais au boulot et quand j'ai terminé, je rentre chez moi. Entre les deux, je descends quelques bières, mais c'est à peu près tout. Dans la mesure du possible, j'essaie d'éviter les interactions avec la police. Mais ce matin, je me suis levé à 6 heures et je suis passé au poste à Richmond. Et j'ai demandé à parler aux inspecteurs chargés du dossier Derek Jenkins et Isaiah Randolph. Vous savez ce que m'a dit La Plata ?
Ajouta Buddy Lee, la voix légèrement tremblante.
Non. Que l'enquête était au point mort. Que personne savait rien. Ou en tout cas, que personne ne disait rien.
Buddy Lee déglutit.
Je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça me foire de moi.
Ike ne réagit pas à cette familiarité soudaine. Et Buddy Lee poursuivit.
Je le vois dans mes rêves. Derek. L'arrière de son crâne explosé, du sang plein le visage, et son cerveau qui palpite.
Ça suffit.
Je suis désolé, mais j'arrête pas de repenser à ce que m'a dit ce flic. Que les amis de Derek et Isaiah refusent de leur parler. Je leur en veux pas d'ailleurs, on est tous les deux bien placés pour savoir que ça peut être risqué de discuter avec la police.
Je suis pas surpris que l'enquête soit au point mort. Soupira Ike. Pour eux... deux gars comme Isaiah et Derek, c'est pas une priorité. Buddy Lee acquiesça.
Je dois reconnaître que j'étais pas fan de tous ces trucs d'homo, mais j'aimais mon gamin. Je lui montrais pas tout le temps et j'étais souvent absent, mais je te jure que je l'aimais de tout mon cœur. Et je pense que c'est la même chose pour toi avec Isaiah. C'est pour ça que je voulais te parler.
Me parler de quoi ? Buddy Lee prit une profonde inspiration. Ça faisait une semaine qu'il répétait son petit discours, mais maintenant que le moment était venu de le prononcer, il se rendait compte qu'il risquait de passer pour un cinglé.
Comme je l'ai dit, commença-t-il, je reproche pas aux amis de Derek et Isaiah de se méfier des flics, mais peut-être qu'avec nous ce serait différent. Peut-être qu'ils accepteraient de s'ouvrir à deux pères endeuillés.
Ike hocha la tête. « Et donc quoi ? Tu voudrais qu'on joue les détectives privés ?»«
Il y a un enfoiré qui est libre en ce moment même. Il se lève le matin, se tape un bon petit déjeuner. Ensuite, il va au boulot, il fait sa vie, j'en sais rien. Et le soir, tu peux être sûr qu'il rentre chez lui avec un joli petit lot à se mettre dans son pieu. Ce fils de pute a buté nos mômes. Il les a transformés en passoires. Et après ça, quand ils étaient étendus sur le trottoir en train de se vider de leur sang, il leur a foutu une balle dans la tête à chacun. Personnellement, j'ai du mal à me regarder dans la glace en sachant que ce salopard court toujours. »
Conclut Buddy Lee, les yeux exorbités. « Est-ce que t'es en train de suggérer ce que je pense ?»«
Ton lion des Black Gods, tu l'as pas obtenu en étant un simple soldat. Ce genre de tatouage, c'est réservé au lieutenant. Et on ne devient pas lieutenant sans faire sa part du boulot. » Moi, je suis pas passé lieutenant, mais j'ai jamais rechigné à bosser.
Ike lâcha un ricanement.
Qu'est-ce qui te fait marrer ? Demanda Buddy Lee.
Tu devrais t'entendre. On dirait un second rôle dans un vieux film de gangster à la sauce cutéreux.
Regarde autour de toi. Je suis à la tête d'une boîte de 14 employés, sans compter ma secrétaire, qui est encore en retard d'ailleurs. Je gère l'entretien à l'année de 15 propriétés, et en plus dois maintenant subvenir aux besoins d'une gamine parce que nos fils ont désigné ma femme comme tutrice légale. Bref, j'ai des responsabilités, des gens qui dépendent de moi. Et tu veux quoi ? Que je lâche tout pour jouer les John Wick ? Je sais que t'as bu, mais j'ai du mal à croire que tu sois bourré à ce point-là.
Buddy Lee se mit à triturer ses doigts calleux.
Donc, si j'ai bien compris, t'as peur de te salir les mains. À moins que t'en aies juste rien à foutre que le mec qui a buté nos fils soit pas inquiété.
Lâcha Buddy Lee. Et Ike serra les poings sous le bureau, son visage figé. Tu crois vraiment que j'en ai rien à foutre? Isaiah a pas pu avoir une cérémonie avec cercueil ouvert parce qu'il était trop amoché pour que le gars des pompes funèbres puisse le rendre présentable. Toutes les nuits, ma femme se réveille en hurlant son prénom. Quand je regarde sa gamine, tout ce que je me dis, c'est qu'elle se souviendra jamais du son de la voix de son père. La dernière chose que je fais en allant me coucher le soir, et la première chose que je fais en me levant le matin, c'est prier pour qu'il soit pas mort en me détestant. Et toi, sous prétexte que t'as vu un tatouage, tu crois que tu sais tout sur moi? Tu sais rien du tout. C'était quoi ton idée en venant ici? T'espérais peut-être que le gros noir flippant irait buter des types pour toi? Dans le cou d'Ike, les muscles saillants dessinaient une carte en relief. Ses pupilles n'étaient plus que des têtes d'épingle. Buddy Lee se pencha vers lui.
Pas n'importe quel type, répliqua-t-il. Les enfoirés qui ont assassiné Derek et Isaiah. Et je te demande pas de le faire pour moi. Moi aussi, je sais me servir d'un flingue.
Foule con de mon bureau, lâcha Ike. Et ces mots, prononcés d'une voix lente et grave, étaient comme des parpaings qu'on traîne sur du bitume. Buddy Lee resta immobile. Les deux hommes se fixaient du regard, dans une atmosphère de plus en plus orageuse. Buddy Lee extirpa de sa poche un ticket de carte bleue chiffonnée et prit un stylo dans le pot. Il nota son numéro de téléphone au dos du reçu, plia le papier en deux et le posa sur le bureau. Après quoi, il se leva pour se diriger vers la porte du box. Au moment de l'ouvrir, il se tourna vers Ike.
Quand t'iras te coucher ce soir, et que tu prieras pour que ton fils soit pas mort en te détestant, tends bien l'oreille. Tu l'entendras peut-être te demander pourquoi t'as rien fait pour le venger. Le jour où tu seras prêt à lui répondre, passe-moi un coup de fil. Si tu le fais pas, je pense que tu devrais aller voir un tatoueur pour qu'il recouvre ce lion par une grosse couille molle.
Et il sortit en claquant la porte derrière lui. Le carillon de l'entrée indiqua à Ike que Buddy Lee avait quitté l'entrepôt. La respiration saccadée, il abattit les poings sur le bureau. Le pot à stylo bascula et tomba par terre. Ike répéta l'expérience et cette fois, ce fut l'ordinateur portable qui sursauta. Ce pecno avait le culot de le regarder droit dans les yeux et de lui dire qu'il n'en avait rien à foutre de son propre fils. Il aurait dû lui faire bouffer ses dents. Ike se leva et sortit du box. Debout au milieu de l'entrepôt, il remua les doigts pour essayer de se débarrasser du picotement dans ses mains. Buddy Lee croyait peut-être qu'il avait le monopole du chagrin. Mais il n'y avait pas un instant où Ike ne pensait pas à Isaiah. Chaque jour, ça devenait à la fois un peu plus facile et un peu plus dur. Dès que la douleur s'estompait, il était aussitôt submergé par la culpabilité. Comme si ne pas ressentir en permanence une brûlure insoutenable dans la poitrine était un affront à la mémoire de son fils. Les jours où sa peine prenait toute la place, il allait s'enfermer dans le cabanon et buvait jusqu'à ne plus tenir debout. Il aurait dû bondir de sa chaise et attraper ce gringalet de Buddy Lee par le col, le plaquer contre la cloison et lui écraser la gorge avec son avant-bras. Il aurait aussi pu lui dire que dans ses rêves, il retrouvait ceux qui avaient fait sauter la tête d'Isaiah. Lui dire comment, dans ses rêves, il emmenait ses enfoirés dans un endroit discret. Un endroit avec à disposition des pinces, des marteaux et un chalumeau. Ike aurait pu dire à Buddy Lee que dans ses rêves, il leur présentait Riot Randolph, le gangster avec 9 cadavres au tableau de chasse, sans compter celui pour lequel il avait été condamné. Il se massa les tempes. Riot Randolph appartenait au passé. Il avait cessé d'exister le 23 juin 2004, le jour où Ike avait été libéré de la prison de Coldwater. Derrière la lourde porte blindée l'attendaient deux inconnus. Une femme qui avait trompé sa solitude avec d'autres hommes et un fils qui n'était plus un enfant et qui faisait tout pour éviter de croiser son regard. Deux inconnus qu'il aimait et qui pourtant frémissait à son toucher. Le soir même, il prenait sa décision. C'était terminé. Il laissait sa vie d'avant derrière lui. Riot était mort en prison, sacrifié par Ike sur l'autel de la famille. Au début, personne ne le prit au sérieux. Les premiers mois, les junkies de la ville continuaient à l'accoster pour lui demander s'il avait quelque chose à vendre. Les premières années, le shérif et ses hommes le contrôlaient dès qu'ils le croisaient, à croire que c'était leur passe-temps favori. Au supermarché, il y avait les clients qui changeaient de rayon quand ils l'apercevaient, et ceux qui l'observaient à la dérobée. Mais Ike était trop concentré sur la lumière au bout du tunnel pour se laisser perturber. Il monta une petite affaire de jardinage, avec pour tout équipement une tondeuse autoportée capricieuse et une serpe rouillée. Et il travailla dur. Plus dur que n'importe qui à 100 km à la ronde. Si bien que lorsqu'Isaiah obtint son diplôme universitaire, Ike avait fini de rembourser la maison et l'entrepôt. Il avait aussi appris à contrôler ses nerfs. En prison, la communication non violente était un concept totalement inconnu. Il fallait frapper le premier et frapper fort. À défaut, on se retrouvait à laver les sous-vêtements souillés de son compagnon de cellule. La première fois que quelqu'un lui avait grillé la priorité après sa libération, ça n'avait pas été facile. Il avait dû faire preuve d'un sang-froid inimaginable pour ne pas rattraper l'imprudent, le traîner hors de sa voiture et lui fracasser la tête contre le bord du trottoir. Buddy Lee n'avait rien compris. Ike n'avait pas peur de se salir les mains, ni de faire couler le sang. Sa seule crainte, c'était de ne pas réussir à s'arrêter.